بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Effrayante conversation entre les gens de l'enfer, effrayante situation que celle des gens qui sont jetés dans le Jahannam, et description de ce qu'ils ressentent, description du bruit, le bruit, le saut, quand ces personnes sont jetées au fin fond de l'enfer, qu'Allah nous protège, et comment est-ce qu'ils sont accueillis par le Jahannam, et les reproches qui leur sont faits, et la reconnaissance, le fait que ces personnes, fa'atarafu, ils reconnaissent qu'ils auraient dû agir d'une autre façon, mais à ce moment, c'est trop tard. Ikhwani fillah, l'objectif, c'est d'éviter cette situation. Qu'Allah nous protège. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, lisait la surat al-Baqara dans le tahajjud de l'Qiyam al-Layl, la lam yakun yamurru bi ayatin, lorsqu'il passait, lorsqu'il lisait un verset qui parlait du Jahannam, immédiatement il demandait protection. Et lorsqu'il y avait un verset qui parlait du Jannah, des récompenses, il demandait à Allah Rabbul Izzah de lui en accorder. C'était là la façon sunnah que le prophète alayhi salatu wassalam lisait le Coran. Il en parle bien sûr de Qiyam al-Layl. Donc dans ces versets, ikhwan fillah, nous avons une description, tout d'abord une description des shayatin qui sont chassés du ciel. Mais ça on avait vu avant le Eid al-Adha. Ce qui nous manquait, c'était la conclusion du verset numéro 5. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Donc, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles, des lampes, c'est-à-dire des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables. Et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ça a été traduit par fournaise. Bien sûr, quand on parle de Python et de fournaise, ça n'a aucun rapport avec le Jahannam. Ça n'a malheureusement aucun rapport avec le Jahannam. Parce que les volcanologues, lorsqu'ils vont au Python de la fournaise, ils mettent des combinaisons spéciales. Oui, non. Des combinaisons spéciales qui leur permettent de s'approcher du Jahannam, qui leur permettent même de prendre des extraits de lave et de ramener. Donc, c'est des combinaisons qui peuvent résister, je ne sais pas, hein, je dis au hasard, 6000, 7000 degrés. Mais dans le Jahannam, personne ne peut être enterré avec sa combinaison. Est-ce que quelqu'un peut dire je vais être enterré mais j'amène ma combinaison spéciale contre le feu? Ah ben déjà ça ne se fait pas. Et deuxièmement, le feu de Jahannam, mustawa akhar, un autre degré. Combien de temps le feu de Jahannam a été préparé? On avait déjà expliqué ça. Alfa amin hatta biyadat, alfa amin hatta ahmarat, wa alfa amin hatta swaddat, fahiya sauda mudhulla, nas'alullah al-afiyah. Pendant 1000 années, le feu du Jahannam a été préparé, attissé, chauffé, jusqu'à ce que ce feu devienne noir. Non, pardon, jusqu'à ce que ce feu devienne rouge. Pendant 1000 ans, encore et encore, peut-être j'inverse les couleurs, hein, mais je suis sûr que la dernière couleur, c'est clair. 1000 années encore, le feu est devenu blanc. Avez-vous déjà vu un feu blanc? C'est pas la braise, hein? C'est pas la braise quand on fait des grillades. Papa, t'as déjà amené fait des grillades? Ah, pour les rites de l'Adha? Il faut dire papa. Les droits de la famille. Quand la braise, hein, le charbon, lorsqu'il devient blanc, on a l'impression que blanc c'est inoffensif, c'est bon, c'est comme la neige. Mais non, bilaks, Quand c'est blanc, c'est qu'il est encore plus chaud. Mais là aussi, ne comparez même pas. Donc ce feu, à un moment donné, est devenu blanc. Et ça, c'est la dernière couleur. Pendant 1000 années encore, c'est-à-dire de la 2000 années jusqu'à 3000 années, le feu de l'enfer est devenu de la couleur noire. Et la conclusion du hadith, c'est que ce feu est noir et obscur. C'est pas un feu qui brille. C'est pas un feu qui brille. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il avait vu une lumière, il avait dit peut-être qu'il y a un feu. Donc on comprend que le feu, c'est quelque chose qui peut apporter un certain réconfort dans l'obscurité. Mais l'enfer n'apporte aucun réconfort. Il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. Soit c'est le jahannam, une chaleur que il faut faire partie des gens, il faut faire partie de la catégorie des êtres humains de l'au-delà pour être mis dans l'enfer et être capable, je le dis de manière très crue, d'être désintégré et de se réintégrer, de se régénérer complètement pour se désintégrer et pour se régénérer de façon permanente. Autrement, personne n'est capable de décrire sa chaleur. Tout comme personne n'est capable de décrire le froid de l'enfer. C'est ça, Ajib. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de nar, Jahannam, le terme nar est là encore, l'arf mushtarak. Et ça, c'est une belle réponse également à, dans d'autres masa'il de Aqidah. L'arf mushtarak, il y a un terme, un mot commun, un mot qui permet à l'homme de comprendre de quoi on parle. Mais la réalité, ce n'est pas la réalité du dunya, c'est la réalité du akhirah. Ça, c'est le message d'Allah, juste pour que l'homme réalise, on parle de feu. Parce que nous, on connaît c'est quoi le feu. D'accord ? On connaît également le danger du feu. On connaît le danger d'une braise. Moussa alayhi salam, lorsqu'il était bébé, qu'est-ce qui lui était arrivé ? Il avait mis une braise dans sa bouche. Et c'est à partir de ce moment qu'il a eu ce problème d'élocution. Et là, il a demandé à Allah Rabbul Izzah, « قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي كِسَا هَارُونَ هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. Il a demandé l'aide de Haroun alayhi salam, qui était éloquent, alors que lui il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et il devait aller voir qui ça? L'ONU, président de tel pays, Pharaon, celui qui pensait être Dieu, un des seuls hommes au monde à avoir dit Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut. Bref, donc on connaît le danger du feu. On connaît le danger, l'homme connaît le feu. Donc lorsqu'Allah Rabbul Izzah nous parle du feu de l'enfer, c'est pour que l'homme réalise qu'on parle d'un élément qui est dangereux. Mais le wasf, la description du Jahannam, n'a aucun rapport avec tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque je vous parle de feu, déjà vous voyez la couleur. Déjà on peut évaluer la température. On sait également comment s'en protéger. On s'éloigne, ben ça ne vous touche pas. Mais dans le Jahannam, il y a ceux qui sont destinés pour le Jahannam, qu'Allah nous protège, ils ne peuvent pas s'en éloigner. On ne peut pas prendre de distance. Impossible de prendre une distance, parce que l'enfer est un périmètre. L'enfer, c'est un endroit qu'Allah Rabbul Izzah a créé pour une catégorie de personnes. « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ » Beaucoup de djinns et de ins sont destinés pour le Jahannam. Qu'Allah nous protège. Donc, ceux qui y sont, ils ne peuvent pas en sortir. Lorsque je parle de feu, je sais également comment l'éteindre avec un extincteur, avec du sable, avec de l'eau, d'accord ? Ou en supprimant l'oxygène. Il y a plusieurs façons d'éteindre un feu. De nos jours, les gens, ils savent plus allumer qu'éteindre. Allah musta'an. De le Jahannam, est-ce qu'on éteint le feu ? On n'éteint pas le feu. Mais l'axe. Le Jahannam a besoin des êtres humains pour devenir encore plus fort. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Il a besoin des pierres et il a besoin des êtres humains. النَّاسُ. Le même النَّاسُ que يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. Le même nas, c'est-à-dire nous, insan, c'est l'être humain qui est le combustible de l'enfer. Et cet enfer, lorsqu'il a Il arrive le moment tant attendu où il peut enfin avoir les gens qui sont destinés pour lui. L'enfer n'obéit plus aux anges. Il y a des wasf, des descriptions des salasil, des anges qui retiennent le Jahannam le jour de Qiyam. Et qu'à un moment donné, l'enfer, il y a 3 ou 4 zafara, 3 ou 4 fois où l'enfer va expirer. Il va jeter
des flammes et Al-Muhasibi entre autres et d'autres ulama al-Aqidah, ils expliquent comment est-ce que la vision de l'enfer sera quelque chose de terrible le jour du Mawqif, le jour de Qiyamah, et cet enfer à un moment donné va se déchaîner dans le sens propre du terme, et il s'en faut de peu qu'il vienne près de la terre de la résurrection, mais l'enfer recevra l'ordre de se calmer. Et lorsque cet enfer, enfin, il réclame ce qui lui sont dus et qu'il obtient ce qu'il voulait, il n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'il demande ? Halmim ? Halmim Mazid. Qu'Allah nous protège. Il demande à Allah Rabbul Izzah ce qu'il y a encore, encore et encore des êtres humains. Et Khwani Fillah, ça c'est vraiment le cauchemar qu'on doit faire. S'il y a bien un cauchemar qu'on doit faire, s'il y a bien quelque chose qui doit nous faire peur, ben, ce ne sont pas les shayatines, c'est l'enfer. Parce que dans le verset, on parle de Rujum al-Shayatin, les diables sont chassés du ciel, parce qu'on avait expliqué ça avant Eid al-Adha. Ils montrent qu'est-ce qu'ils essayent d'avoir, des informations pour donner aux sorciers, pour donner aux devins, qui va donner ça. Et il y a des gens, même dans la communauté, qui courent, qui vont voir des devins et ainsi de suite pour avoir des informations. Allah musta'an kufr billah. Ça, c'est autre chose. Et les gens, ils ont peur. Ils ont peur de ceux qui maîtrisent ce genre de choses. Ils ont peur des shayatines. C'est pas des shayatines qu'il faut avoir peur. C'est de l'enfer. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Parce que ces shayatines, même s'ils sont capables de faire des choses, il y a des pouvoirs qu'Allah leur a accordés, mais dans ce verset de la surat Al-Mulk, c'est verset 5, Allah Azza wa Jal annonce, et nous leur avons préparé le châtiment al-sa'ir, عَذَابَ السَّعِيرِ, le châtiment de la fournaise, le châtiment du Jahannam. Donc, encore une fois, pour revenir à la comparaison, pour montrer qu'il n'y a aucune comparaison en tout ce que nous pouvons concevoir dans ce monde et l'équivalent de ces choses dans l'au-delà, si ce n'est le nom, Bas. Donc, le feu qui peut apporter quelque chose à l'homme sur cette terre, ce n'est pas ce feu-là de Jahannam. Le jour de Qiyamah, c'est un feu qui n'apporte strictement rien. Et c'est un feu pour qu'on voit déjà que sur le plan physique et chimique, ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît, il y a dans l'enfer des endroits qui sont froids. Quelqu'un se souvient du terme Zamharir, si je ne me trompe pas, à vérifier, des endroits qui sont extrêmement froids de le Jahannam, mais ce n'est pas un froid non plus qu'on dit qu'une personne était en train de brûler, maintenant il va être dans un endroit, il va se rafraîchir. Non, pas comme si vous avez chaud, vous allez dans un endroit où vous entrez dans une chambre froide, et ok, il va faire très froid, mais au moins vous êtes proche. Abadan, ce froid du Jahannam, c'est également un froid de adab. Et si vous regardez parfois les documentaires des gens qui sont en haute montagne, en Antarctique et tout, moins 40 degrés, si il y a un centimètre de peau ou de chair qui n'a pas été couvert, ben le froid pénètre et le membre tombe. Ça glace tellement que ça chute. J'ai vu ça une fois, c'est ajib. C'est-à-dire que le froid détruit, comme le feu détruit. Là, c'est un petit aperçu qu'Allah nous protège. Donc voilà. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on parle d'un feu qui est de couleur noire et un feu qui est obscur, un feu qui n'apporte qu'obscurité et aucune lumière. Maintenant, imaginez la grandeur d'un feu qui est tout noir, qui est obscur et qui est d'une température incroyable. Et les gens, ils y sont jetés et lorsqu'ils tombent, on entend le bruit des gens tomber. Quand vous êtes dans un endroit élevé, une montagne, que vous jetez une pierre, vous entendez, ça prend 15-20 secondes, ça tombe et vous entendez le bruit. Mais imaginez que vous entendez le bruit, excusez-moi de le dire de façon si crue, vous entendez le bruit de votre frère qui tombe dans le Jahannam. Vous entendez le bruit de vos enfants ou de vos parents qui tombent dans le Jahannam. Parce que lorsque l'homme chute dans le Jahannam, on entend. Et lorsqu'il tombe, on dit, on va voir ce qu'Ibn Kathir rahimahullah dit, donc là on peut rentrer directement dans le verset, on avait introduit un petit peu la notion du Jahannam, et comment ça doit être le cauchemar qui mérite d'être fait. Même Sahaba, j'ai plus son nom en tête, qui n'arrivait plus à dormir après avoir écouté le wasf, la description du Jahannam, il ne pouvait plus dormir le soir, il en faisait des cauchemars. Il avait peur du châtiment de l'enfer. Mais ça doit être vraiment une crainte obsessionnelle. Et ça ne doit pas se limiter à une crainte comme on a peur, on fait des cauchemars parce qu'on a vu ou on a entendu des choses. Non, ça doit être une peur qui doit engendrer quoi ? Une réaction. C'est une peur. Pour que la peur soit productive, cette peur doit engendrer une réaction. Cette réaction, c'est quoi ? C'est se prémunir, se protéger des actions qui mènent vers l'enfer. Vous savez, les branches de la foi, normalement, sont amplement suffisants pour nous permettre de mettre en application les piliers de l'islam. Parce que la personne qui a cru Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri, justement. Quand il parle wal yawmil akhiri de l'au-delà, ça inclut toutes les étapes de l'au-delà et les deux aboutissements possibles, le jannah ou alors le jahannam. La personne qui dit je crois à l'enfer, je crois au paradis, le minimum du croyant, c'est de connaître un peu la description du paradis et un peu la description du jahannam. Maintenant, quand quelqu'un a compris quelle est l'ampleur du feu du jahannam, comment est-ce que c'est quelque chose, comment est-ce que c'est quelque chose de terrible, jamais Allah Rabbul Izzah n'a créé quelque chose de plus terrible que le jahannam, ben, et que la personne a réalisé que ce qui amène vers le jahannam, ce sont les péchés, est-ce qu'un être humain sensé, est-ce qu'un croyant intelligent, clairvoyant, ya'qiloun, les gens qui ont l'intelligence, d'accord, ceux qui ont la clairvoyance ou l'absar, est-ce qu'ils vont accomplir les actions qui les mènent vers le jahannam? Logiquement, non. Mais si les gens continuent à faire les péchés qui mènent vers le jahannam, c'est qu'en finalité, ils n'y croient pas vraiment. Je ne dis pas qu'ils n'y croient pas, on n'a pas le droit de juger. Mais le iman, bil yawmil akhir, n'est pas suffisant pour que la personne accomplisse de bonnes actions comme il le faut. Et le iman bil yawmil akhir n'est pas suffisant pour que la personne s'éloigne du haram. Lorsqu'on explique à un jeune qui est au lycée, et ça c'est un combat qu'on mène régulièrement, vous savez, avec tout ce qui se dit maintenant sur le net, il faut faire très attention aux termes. On explique aux jeunes, essayer d'expliquer aux jeunes dans la mesure du possible. On a affaire à une réalité, une fatalité presque, c'est la mixité. Les collèges, les lycées, on ne peut pas y échapper. À moins que, alhamdoulilah, on a la chance d'habiter à Saint-Pierre et qu'on ait un collège privé. On a dit, la capitale a pris du retard sur une ville, je ne dis pas une ville secondaire, je n'ai pas le droit de dire ça, mais sur une autre ville, moins importante et moins peuplée. Frère, il n'y a peut-être pas le même fikar, il n'y a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt et les mêmes priorités. Allah musta'an, frère. Et donc, à moins d'habiter dans un endroit où il y a un collège qui est encadré, pas un collège islamiste du tout. Non, un collège où il y aura des règles, il y aura une éthique, d'accord? Toutes les matières seront enseignées. S'il faut enseigner la philosophie, là je parle du lycée, on enseignera, tout peut être enseigné. Mais qu'il y a un code vestimentaire, au moins, il y a la notion de respect, il y a l'éthique, qui est l'éthique du croyant, mais qui doit théoriquement être également l'éthique de celui qui pratique la religion catholique ou la religion juive, c'est-à-dire de façon correcte. Il y a des règles de vie. Parce que lorsqu'on voit nos jeunes, il n'y a plus de limites. Il n'y a rien du tout. Il n'y a plus de croyance. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus rien. Il y a juste les interdits de la loi. Seules affaires qui ne font pas, dis attention, gars, la loi y arrive. C'est la loi qui les fait peur. Autrement, il n'y a pas de limite. Les amas, l'alcool et ainsi de suite. Tant que vous ne faites pas attraper, il n'y a pas de souci. Enfin, on revient. Donc, la mixité, c'est une réalité. D'accord? Maintenant, nos jeunes doivent intégrer le fait que on peut être dans une classe avec des filles de notre âge et tout, mais on n'est pas obligé d'adopter. On n'est pas obligé d'adopter un mode de comportement qui commence par, je ne sais pas, mais le fait de faire la bise au matin. Ou alors, obligatoirement être ensemble. On peut avoir une certaine intégrité. On peut être respectueux, mais tout en ayant son mode de fonctionnement. Excusez-moi, mais un jeune musulman qui fait la bise à une jeune fille, ça c'est inacceptable, c'est incohérent, c'est khilaf ad-din. On ne parle pas de discours extrémiste ou autre. Écoutez, j'étais dans un rassemblement avec des personnes d'une autre confession. On était ensemble à la mairie, à la salle polyvalente il y a 2 jours. J'ai été voir un responsable religieux d'une autre religion, on avait une conférence commune. La personne ne m'a pas donné la main. La personne m'a fait comme ça. Ben, moi, je n'ai pas fait comme ça, mais je dis, voilà, khalas, il a ses convictions. La dame, elle ne donne pas la main au monsieur. Ce ne sont pas des musulmans. Ils ont un autre signe pour dire bonjour, bonsoir, ou je ne sais pas, c'est quoi le message véhiculé. Est-ce qu'on va appeler ça de l'extrémisme religieux, du rigorisme? Non, c'est une culture. On doit avoir une culture, tout simplement. Et c'est une spiritualité. Et ça, c'est très important d'inculquer aux enfants. On n'est pas obligé d'entrer dans un moule. Parce que quand on entre dans un moule, ben, on ressort. On devient un produit fini. Et le mu'min ne peut pas se permettre d'être un produit fini qui sort d'une grande usine. Non, on a des valeurs. Il y a des points communs, on a des règles de la République sans le moindre doute à respecter. Il y a des diplômes à valider, ainsi de suite. Il faut travailler pour la boukas bil halal. Travailler pour avoir sa subsistance, ça fait partie des droits du croyant. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller à l'encontre de ce que nous devons respecter dans notre religion. Et ça, ça fait partie des choses basiques que nous devons inculquer à nos enfants. Pareil, le rapport avec la musique. Je sais qu'il y a débat, je sais qu'il y a discours. Après, peut-être qu'il y a une certaine façon de présenter aussi. Mais nous savons quel est l'effet sur le cœur. Nous savons quel est l'effet sur le cœur. Nous devons rappeler aux enfants, nous devons rappeler aux jeunes, essaie de t'habituer au Coran. Et ce qui est clair et net, c'est qu'un cœur qui aime la musique, c'est un cœur qui ne peut pas aimer le Coran. Ça, c'est pas possible. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont légaliser certaines choses. Non, ikhwani fillah, on a grandement besoin, subhanallah, d'adapter notre discours et de ramener nos jeunes, subhanallah, avec les conseils. Parce que la pire des choses, c'est de perdre ses proches. C'est pas perdre ses proches. La pire des choses, c'est pas que ton enfant ne réussit pas, il n'a pas une grande carrière, qu'il ne devienne pas un ingénieur ou un docteur ou un médecin. S'il le devient, alhamdulillah, nourun ala nour. Mais la pire des choses, c'est que cet enfant, il s'éloigne du din. Et que le jour de Qiyama, toi en tant que papa, tu entends ton fils tomber dans le Jahannam. Ça, c'est la pire des choses. Ou que lorsque la personne rentre dans le Jannah, se rend compte que sa femme n'est pas là ou que ses frères ne sont pas là. C'est le verset qu'on cite souvent dans les mariages, Jannat wa adni yadkhuluna. Le shart, la condition, c'est waman salaha. Ceux qui avaient les qualités, min abaihim, parmi les parents, min abaihim wa azwajihim, épouse, wa dhurriyatihim, les descendants. On a les ascendants, les descendants et la femme, l'épouse. Mais la condition, c'est waman salaha. En commentaire, on faisait dire waman salaha, ay, man indahu, celui qui a les qualités, qui accomplit les actions qu'il fallait, qui leur donnait la possibilité d'accéder au djinn. Ça, c'est la priorité des priorités. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum, contre quoi? Nar. La seule chose qui est qualifiée comme étant terrible, c'est un nar. Oh, vous qui avez la foi, protégez-vous et protégez vos proches d'un feu. Et il y a la description du feu, et une description des gardiens pour que l'homme ait vraiment peur. L'objectif de ce verset, c'est de choquer, de faire peur. Description, on avait dit tout à l'heure, quel est le combustible de l'enfer? Aliha malaikatun ghilazun shidad. La ya'asun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Description de ces anges gardiens du Jahannam qui ne désobéissent pas à Allah. En commentaire, on pourrait dire également que c'est des anges qui n'ont aucune pitié, qui n'ont strictement aucune pitié et qui obéissent les ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc ça doit être vraiment la priorité des priorités. Un bon père de famille, un bon mari, il doit se préoccuper du akhirah de ses proches et faire en sorte que ses proches ne connaissent pas ce que ces kuffars vont connaître le jour du Qiyama. Donc وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيمُ وَالسِّشَيَاطِينَ. Il est expliqué de le verset 5 que la destination c'est le Jahannam, la fournaise. Ensuite, on a un verset plus général concernant ceux qui n'ont pas cru en Allah. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هَذَا. Et ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer et quelle mauvaise destination. Premièrement, les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a rappellent que takfir al-kafir, c'est nécessaire. Le fait d'attester que celui qui ne croit pas en Allah et son prophète ne peut pas accéder au Jannah, ça fait partie des bases de iman. On n'a pas le droit d'entrouvrir une porte et de dire que oui, même s'il ne croit pas, c'est dans les mains d'Allah. Et le Coran, c'était révélé comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé d'un petit problème qu'on avait avec un frère très ouvert d'esprit, qui était très en colère, qui jusqu'à mort. Là, il recommençait à parler avec moi, et pendant longtemps, il ne voulait même plus me parler, parce que je ne suis pas entré dans son jeu. Il voulait me faire dire que même celui qui ne croit pas en Allah et son prophète, mais si la personne a bien agi dans ce monde, il aura la pitié d'Allah, il entrera dans le Jannah. Je dis, abadan wallah. Je dis, à moins que tu aies un autre wahi, mais de le wahid, à moins que tu aies une autre révélation, un autre livre qui t'a été révélé, mais dans notre livre à nous, Allah Rabbul Izzah dit bien le Coran, naqad kafara alladhina qalu. D'accord ? C'est pas ça, c'est après. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Clair et net. Celui qui a fait le shirk, le jannah est quoi ? Est haram. Vous croyez que haram c'est juste pour faire peur ? Est-ce que c'est makruh ? C'est haram. Wa ma'wa, al-ma'wa c'est l'endroit où la personne y va, il reste. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Donc le fait de, et subhanallah, le fait d'être persuadé que ceux qui n'ont pas iman en Allah, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas détester celui qui n'a pas iman, bien au contraire, le fait de savoir que celui qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans son cœur, qu'est-ce qu'il risque dans le delà, ça va te motiver à aller vers la personne. Ton collègue de bureau avec qui tu bois le café, tu manges le croissant tous les matins et tu prends la pause déjeuner ensemble, et depuis 10 ans on est collègues, on se fréquente, mashallah, et à aucun moment on ne se fait du souci pour la personne que si cette personne quitte ce dunya, quelle sera la destination. Donc le fait d'être persuadé de la destinée de ceux qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur, ça doit provoquer en nous un sursaut d'amour, un sursaut de sens, de responsabilité en tant que ummati, et qu'il est de notre devoir de protéger ces gens de l'enfer. De quelle façon? En étant un intermédiaire pour les amener vers la lumière, vers le haqq. Comme nous, on a connu le haqq. Peut-être parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont lu à un moment donné la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Toutes les personnes qui sont présentes. Y a-t-il des petits-fils de sahaba ici? Non. Y a personne qui descend directement des sahaba. Soit nos ancêtres venaient de l'Inde, soit ils venaient des îles Comores, soit de Madagascar, soit... Je pense qu'on a fait le tour des 3 nationalités plus ou moins présentes, ou Ikhwani, nos frères qui viennent de l'Afrique du Nord. Mais ces pays, c'est qu'il y a des sahaba qui ont été, qui ont apporté la ilaha illallah. L'Inde, As-Sindh, ça s'appelait As-Sindh, avant qu'ils regroupaient l'Inde, le Pakistan et le Cachemire, il y avait le nom de sahaba qui y allait, qui a prêché. Dans les îles Comores, il y a des tombes de sahaba qui ont été jusque-là, subhanallah. Et il y a un début à tout. Si ces gens n'avaient pas eu de pitié pour cette personne qui était mon arrière-grand-père, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Allah musta'an. Est-ce qu'on serait dans Masjid al-Madina en train d'étudier وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ? Du coup, ce qu'on est en train de faire, ça c'est فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ نِعْمَ. Plus grand bienfait qu'Allah nous a donné, c'est qu'on a la ilaha illallah Muhammad al-Rafa. On a la garantie que si là l'ange de la mort reprend notre âme, on a au moins rempli une condition. Peut-être que nos salats sont mauvais, peut-être que nos actions ne valent rien, mais il y a la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah dans notre cœur. Quelle que soit la valeur de ce tawhid, c'est-à-dire l'ampleur, comment est-ce qu'on l'a travaillé. Mais ce qu'il y a, la garantie c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui a la ilaha illallah Muhammad, celui qui a le tawhid dans son cœur, il ne rentre pas dans le jahannam. Il ne rentre pas, ça veut dire quoi? Il n'y reste pas. Khuloud. Même si la personne doit payer de ses péchés au jour de Qiyamah, mais il n'y reste pas. Ça c'est sûr. Pour chaque personne présente, chaque personne qui a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans son cœur, personne ne restera dans le jahannam. Maintenant le combat, l'objectif c'est de même pas voir le jahannam, même pas s'en approcher. Donc on a iman dessus. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَيْ بِئْسَ الْمَآلُ وَالْمُنْقَلَبُ. C'est la pire des choses. La pire des choses. Notre subhanallah, notre échelle de valeur, on doit complètement changer. Lorsqu'on entend une personne, subhanallah, une personne qui est dit que voilà, il a fait des analyses de sang, ben il a fait un scanner, il a révélé une tumeur qui est maligne, et que la personne a un cancer, et que le cancer n'a pas été vu à temps, le cancer généralisé, miskin, le pauvre lui reste 2 mois à vivre, et ainsi de suite. Pour nous, c'est une catastrophe, c'est la pire des choses, c'est fini, c'est terminé, subhanallah. Ça, c'est notre conception des choses. Mais ce n'est pas la conception du mu'min. Parce que cette personne qui a été éprouvée, on va appeler ça une épreuve, cette personne qui vit des difficultés, il lui reste quelque temps pour qu'il rencontre son Seigneur. C'est pas quand il va mourir, ce sera terminé. C'est que quand il va mourir, il va rencontrer son Rabb, rencontrer son Seigneur. Maintenant, il faut qu'il rencontre correctement son Seigneur. Il faut que ses actions soient là. C'est a'mal, ses prières, ses saumes, حقوق الوالدين, les droits des parents, ainsi de suite. Et même s'il y a des manquements, peut-être que, pas peut-être, sans le moindre doute, le mal qui est en train de le toucher, cette maladie, cette souffrance, c'est kafara. Allah Rabbul Izzah envoie ça pour le purifier de ses péchés, afin que lorsqu'il rencontre Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de péché dans ses livrets de compte. Ça, c'est l'échelle de valeur du croyant. Ça, c'est pas une situation calamiteuse et catastrophique. La situation catastrophique, c'est quand quelqu'un meurt riche, gros, gras, célèbre, PDG, aimé de tout le monde, et ainsi de suite, mais sans la ilaha illallah de son cœur. Ça, c'est la catastrophe. Parce que là, on sait que la personne est perdue. C'est irrécupérable. Tant qu'il y a le souffle de vie, le tawba est possible. Le retour vers Allah est possible. La pire des choses, mes chers frères en islam, c'est le kufr. Saint Omar ibn al-Khattab, disait une parole, je crois bien, Saint Omar, dit qu'à chaque fois qu'une épreuve me touche, je remercie Allah Azza wa Jal pour trois choses. Un, que cette épreuve, et la première chose qu'il dit, c'est que cette épreuve ne touche pas mon iman. Qu'Allah protège. Imagine quelqu'un qui commence à douter de la foi. Allahu Akbar. Vaut mieux mourir maintenant. Vaut mieux mourir d'une crise cardiaque tout de suite que de savoir que tu vas vivre comme un roi, mais dans 10 ans, tu fais le kufr et tu mets avec le kufr. On est tous d'accord, j'espère. On est tous persuadés. La pire des choses, c'est être éprouvé dans son iman. Quand les waswasa, les insufflations du diable commencent à toucher la foi et on commence à reconsidérer les choses, on commence à discuter des points de la religion, remettre en question, on essaie de réfléchir, on relativise, on se dit peut-être que non, tout compte fait, c'est pas obligatoire, tout compte fait, est-ce que réellement il y a ça, est-ce qu'on n'exagère pas, na'oudhu billah, quand tu rentres ces waswasa de shaitan, tu es en train de te perdre et tu risques de devenir parmi les ahlun nar, qu'Allah protège. Alors que quand le médecin te dit que tu as telle maladie, excusez-moi, je le dis de manière crue, hein, on va dire, oui mais et alors? Premièrement, c'est muqaddar, c'est ton taqdir. Deuxièmement, c'est peut-être le cadeau qu'Allah te donne pour te délivrer de tout ce qui aurait pu te causer des problèmes là-haut. Vous voyez l'échelle de valeur du croyant, comment est différente. Ça ne veut pas dire que le croyant aime la mort. D'une certaine façon, il y a une différence entre aimer la mort et aimer rencontrer Allah. Deux choses différentes. Il y a des journalistes qui avaient mal compris, mal interprété les événements qui sont déroulés à Mina. Ils ont dit que oui, quand ils entendent des gens qui disent que ouais, ben celui qui est mort, ceux qui sont morts, ils ont la chance, c'est l'idéal. Je dis que les croyants, voyez un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, ne lisez pas, ça vous donne des problèmes. D'accord, j'avais un peu de temps libre, Eid al-Adha, j'ai lu et pendant 2 jours, je voulais plus parler avec personne. Non, on se dit que il n'y a pas de justice dans ce dunya, il n'y a pas de justice. Il y a des gens qui applaudissaient le nombre de morts, des koufars. Quand c'est 700 d'ici seulement, on pouvait avoir 700 par jour. Commentaires, réseaux sociaux, de journaux. Je dis le terme, je dis les noms. Le Monde, Libération, L'Express, France 24. Ce n'est pas des petits trucs de blédard, c'est des trucs officiels. Aucune censure. Aucune censure. Aucune remarque. Osez prononcer une parole de ce genre concernant une autre communauté. Vous ne terminez pas votre phrase. Que vous avez des gars casqués qui viennent et que, khalas, vous êtes sur Sainte-Hélène. Non, quand même pas. Ils ont changé, maintenant ils envoient ailleurs. A'oudhu billah, volm, muntashir. Et là tu te rends compte que tous les coups sont permis. Sans vandame seulement. Tous les coups sont permis. Quand il s'agit de mu'min billah, khalas, hadith wa la haraj, sans limite. Et c'est toléré. Et tu te dis que, khalas, il faut faire avec. Tu n'as pas d'autre choix que de vivre avec, et ça va être comme ça. Ne cherche pas la justice. Tu te cognes la tête contre le mur, parce qu'à chaque commentaire, que ce soit à presse, sur le plan national, même local, ce cancer commence à arriver un petit peu ici, avec certains médias, ça ne même pas, ça s'appelle pas des journalistes, ça, je ne sais pas comment on peut les appeler. C'est un site internet où on voit des gens de réaction islamophobe, l'Amstan. Bref, donc certaines personnes ils étaient heureux. Il y a un homme qui dit le million, quand est-ce qu'on arrive au million? Et sans qu'il y ait le moindre reproche. Bref, donc certaines personnes se sont dit, mais c'est quoi ces personnes-là? Ils aiment soit mourir, se faire exploser, soit en étant kamikaze, ou alors mourir piétiné, ils sont heureux. Mais ils se sont dit que c'est des gens qui n'aiment pas la vie. Comment peut-on faire confiance à des gens qui n'aiment pas la vie? S'ils n'aiment pas la vie, est-ce qu'ils vont aimer leurs proches? Est-ce qu'ils vont aimer leur entourage? Est-ce qu'ils auront l'envie d'apporter quelque chose à leur prochain? Ça, c'est un faux discours. Il n'a jamais été dit que le croyant n'aime pas la vie, n'importe quoi. N'importe quoi. Subhanallah, autrement, pourquoi est-ce que notre prophète nous avait dit de faire des enfants? Il faut que vous ayez une grande famille, le qiyamah sera notre fierté. Aimez vos enfants, le prophète descendait du mimbar. Lorsqu'il voyait Hassan et Hussein, il les embrassait. Quand il voyait comment ils étaient beaux, et ainsi de suite. Il y avait de l'amour, il y avait de la vie, le prophète a donné. Et le musulman donne de l'amour aux autres. C'est pas qu'il vit pour mourir, c'est quoi cette histoire-là? Maintenant, aimer, rencontrer Allah, c'est autre chose. C'est que, quel que soit le moment où Malik al-Maut, l'ange de la mort prend ton âme, tu n'as aucun regret, parce que tu es prêt spirituellement pour rencontrer ton Seigneur. Et ça, c'est le combat de tous les jours, être toujours prêt. Et être toujours prêt, c'est aussi ne jamais faire du mal à son prochain. C'est ne jamais faire du mal à ton voisin qui est chrétien, qui est juif, qui est hindou, malbin, quel que soit, ou qui ne croit pas. Tu ne fais pas de mal, parce que si tu lui fais du tort, le jour de Qiyam te reprochera, tu as fait du mal à une des créatures d'Allah Azza wa Jalla. Tout ça, c'est la préparation spirituelle. Ce n'est pas uniquement rester prosterné. Tout ça, c'est la préparation. Vous voyez que notre dîn, c'est une religion de perfection. Mais il faut bien comprendre. Il ne faut pas aller dans tous les sens, dans les approches d'Allah Moustan. Donc, on revient et on expliquait que la pire des choses, c'est, oui, quand Omar ibn Khattab dit que quand j'ai une épreuve, je remercie Allah pour trois points. Premièrement, c'est que cette épreuve ne touche pas mon iman. Et ensuite, que l'épreuve ne soit pas plus accentuée que ça. Et la troisième chose, ça ne me revient pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'épreuve d'à la fois, c'est la pire des choses. Et être parmi alladhina kafaru, ça c'est terrible. Parce que la réponse est, qu'est-ce qui leur est destiné? Adhabu jahannam. Et Allah Rabbul Izzah en plus dit que ça c'est la pire des choses. Wa bi'sal masir. Et quelle mauvaise destination. Et ça c'est Allah qui l'atteste. Parce que cette destination-là, qui l'a créée? C'est Allah. Et le Jannah, qu'est-ce qu'Allah dit à propos du Jannah? Ma la ray, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur ne peut même pas imaginer. Qui a créé ce Jannah pour donner une description si fidèle? Allah Rabbul Izzah. Et ce même Seigneur qui a créé le Jahannam, il te dit, wa bi'sal masir, ça c'est la pire des choses. Et c'est de ça que nous devons avoir réellement peur. Parce que إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. Deux descriptions horribles. Deux descriptions qui choquent. شَهِيق, c'est un gémissement. يَقُولُ إِبْنِ جُرَيْجِ يَعْنِي الصِّيَاح, l'hurlement. Le cri des personnes qui tombent dans le jahannam. C'est un hadith, il est décrit. Je ne sais pas si c'est munasib de donner ces descriptions, non, il ne faut pas que les enfants fassent des cauchemars non plus. Il est décrit comment les anges, ils vont attraper et ils vont tirer les gens du Jahannam par le visage. Parce que le visage, c'est la partie du corps la plus honorée. C'est pour ça qu'on le pose sur le sol pour Allah. Parce que c'est la partie du corps qu'on aime le plus honorée, et qu'on le pose sur le sol pour dire, oh Allah, tu es tout, moi je suis rien. Et par le visage, ils sont tirés et ils sont jetés dans le Jahannam. Et lorsqu'ils tombent, on entend, les gens qui sont de le mawqif entendent, on parle de gémissement, le cri, le hurlement de ces personnes qui tombent dans le Jahannam. Et vous savez que le Jannah, c'est Darajat. Alors que le Jahannam, c'est Darakat. Darakat, c'est plusieurs degrés, mais inférieurs. Le premier degré de Jahannam, le deuxième, le troisième, et ça va de plus en plus au fond. Et Allah seul sait quelle est la limite, qu'Allah nous protège. Donc la première chose, c'est Sami'u laha shahiqa wa hiya tafour. Ça veut dire quoi tafour? Comment est-ce qu'ils ont traduit? Verset 7. Tandis qu'il bouillonne. Ibn Kathir, rahimahullah, il rapporte de Al-Thawri, Taghli bihim, kama yaghli al-hab. Il dit que quand ces personnes sont accueillies, il donne une description, tafour c'est comme yahli, c'est quelque chose qui bouille, d'accord, comme de l'eau ou un liquide qui bouille. Il dit kama yahli al-hab al-qalil fil ma' al-kathir. Il donne un exemple, c'est comme si vous avez une grosse marmite d'eau bouillante et que vous mettez quelques petites graines. Ça, c'est juste pour donner une image, comment est-ce que c'est quelque chose de terrible et qui accueille une créature qui est faible et qui ne représente rien par rapport à l'ampleur du Jahannam. Takadu tamayyazu min al-ghayz. peu s'en faut que de rage, il n'éclate. Ça, on parle du Jahannam. Là, les Mufassirs disent, voyez, la colère du Jahannam. Voyez comment est-ce que le Jahannam, il veut détruire, il veut en finir avec les personnes qui y sont jetées. Non seulement l'enfer, la température, le degré de l'enfer, mais la haine, l'acharnement du Jahannam sur les personnes qui y sont jetées. Pourquoi l'acharnement? Parce que, un, il a été créé pour ça. Et deuxièmement, il sait que les gens qui sont jetés, ce sont ceux qui sont détestés par Allah. Pour le kufr shirk ou pour des péchés qu'ils ont accomplis, le temps que ces péchés soient effacés, soient enlevés, parce que ils avaient eu mille et une occasions de demander pardon à Allah. Comment est-ce qu'ils n'ont pas demandé pardon à Allah? Comment est-ce qu'ils n'ont pas obtenu pardon pour leurs péchés? Subhanallah. Comment est-ce que ces gens n'ont pas pensé à jeûner le jour d'Arafat? Comment est-ce qu'ils n'ont pas pensé à jeûner Sitta min Shawwal? Comment est-ce qu'ils n'ont pas jeûné Ashura? Comment est-ce qu'ils n'ont pas demandé pardon Laylatul Qadr? Comment est-ce qu'ils n'ont pas été au moins une fois à Arafat, lever les mains, obtenir... Le nombre de fois qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité aux gens de se rattraper le péché, entre les wuzous, lorsqu'on se purifie, les péchés s'en vont d'un jum'a à l'autre, en lisant le surah Kahf, ça t'apporte une lumière. Tellement d'occasions qu'Allah nous donne. Comment est-ce que quelqu'un peut passer à travers tous les filtres de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et qu'en finalité il se retrouve avec ses péchés? C'est vraiment quelqu'un qui était dans le rafla de l'insouciance totale. Ou alors, il avait des kaba'ir min adh-dhunub, des péchés majeurs, et pour lesquels il n'a jamais eu de prise de conscience. Celui qui est dans l'adultère, celui qui est dans l'intérêt. Ça, c'est les deux fléaux, l'adultère et l'intérêt. Celui qui est dans et qui se donne bonne conscience, ça, ikhwan fillah, ça, c'est la pire des choses. Différence entre quelqu'un qui est dans le péché et qui essaie de trouver une solution pour s'en sortir, et la personne qui y est et qui s'y plaît, et qui considère que cette façon de vivre sa sexualité, c'est une liberté et une ouverture d'esprit, parce que cette personne-là n'éprouvera jamais un nadam. Et à partir du moment où on éprouve, c'est pas pour rien si parmi les conditions du tawbat al-nasuha, première condition c'est les remords. Parce que tant que tu n'as pas de remords, tu n'as pas de prise de conscience. Et si tu n'as pas de prise de conscience, tu ne vas pas regretter, tu ne demanderas pas pardon et tu ne prendras jamais la résolution de t'en éloigner, sachant que c'est la pire des choses. C'est ce qui peut te précipiter vers le jahannam. Donc, ikhwani fillah, celui qui est dans les kaba'ir min adh-dhunub, comme l'adultère ou l'intérêt, ça c'est la pire des choses, parce qu'en plus, il risque de se donner bonne conscience que c'est pas grave. Ceux qui sont dans le riba, dans l'intérêt, ils se disent que c'est comme ça que ça marche de nos jours, il n'y a pas d'autre solution, c'est le système monétaire qui veut. Et quand est-ce qu'ils demandent pardon? Est-ce que le tawbah est accepté alors que leur machine tourne encore là-bas? Abadan! Parmi les conditions pour que le tawbah est accepté, bien sûr, c'est d'arrêter le péché. Tu arrêtes la machine. Ensuite, tu demandes pardon, tu essaies d'effacer les traces. Donc, si des personnes n'obtiennent pas le pardon d'Allah, c'est peut-être aussi qu'ils ont des kaba'ir pour lesquels ils n'ont pas demandé le tawbatun nasuha, ils ne l'ont pas obtenu. Taqalu tamayyazu min al-ghayth, on terminera avec ça. Kullama ulqiya fiha fawj, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, les gens sont jetés dans le Jahannam, dans ce verset, il est précisé par un groupe fawj. Dans quel fawj vous voulez être? Les gens entrent dans le Jannah également à fawja. Majmu'at, hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam décrit que les premières personnes entrées dans le Jannah, Allahumma ja'alna minhum, dites amin, ils vont s'agripper, ils vont s'attraper par le bras, ils vont y entrer ensemble. Il dit qu'il n'y a pas un qui rentre avant son frère. Ils entrent ensemble et on parle de la grandeur des portes du Jannah. On parle d'une distance entre Mecca et Al-Irak, des milliers de kilomètres, une porte du paradis. Les gens, ils entrent par centaines ensemble. Mais également, et quand ils entrent, et puis il y a Muhasib, c'est toujours lui, il est excellent lui. Comment il décrit, comment l'odeur du paradis arrive. La première chose, c'est l'odorat. Ils sentent le parfum, un parfum qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas, ils n'imaginent même pas. Parfum du Jannah. Ensuite, ils entendent le bruit de ruisseau. Quand vous-même vous entendez ici un bruit de ruisseau, vous allez El Boua là-haut, au voile de la mariée, comment est-ce que ça apaise le cœur, d'accord? Ils entendent le bruit des ruisseaux, c'est le ruisseau du Jannah. Ensuite, ils ont le visuel. Et dans certaines choses, ils disent que quelqu'un, une personne du Jannah, il peut admirer son mulk pendant 2000 ans. Regarde, ébahi, épaté, tout ce qu'Allah lui accorde. Et les gens entrent en groupe de le Jannah. Mais également, il y a des gens qui rentrent pas. Dans le Jannah, on entre, on demande autorisation, on est accueilli, et les anges, il y a un comité d'accueil. les anges viennent et vous souhaitent la bienvenue, selon les versets. Dans le Jahannam, on n'entre pas. On y est jeté, précipité. Il n'y a aucun comité d'accueil, si ce n'est le feu qui accueille la personne pour qu'il connaisse le pire des châtiments qu'une créature puisse connaître. Donc, est-ce qu'on veut être, dans quel groupe on veut être? Ça, c'est la question. Et je pense qu'on peut garder cette phrase, on peut la laisser résonner dans notre esprit, et à chaque fois où on est exposé à une bonne action, je dois me poser la question, est-ce que je veux être dans le groupe qui rentre dans le Jahannam ou parmi les groupes qui sont jetés dans le Jahannam? Ça doit être suffisant pour me motiver à faire les bonnes actions. Et à m'éloigner totalement de ce qui est haram. Qu'Allah nous pardonne nos manquements, nos erreurs, et qu'Allah nous donne les qualités pour entrer dans le Jannah. Et qu'Allah nous protège et protège nos proches, femmes et enfants, parents, ascendants, descendants, nos amis, nos proches, voisins, éloignés, nous protège sous le Jahannam, et que nous devenions un motif de guider pour ceux qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammad rasoul de leur cœur, que par notre parole, nos paroles, par notre comportement, par l'amour qui se dégage de notre akhlaq et de nos paroles, que ces gens-là voient qu'il y a un haqq et que nous vivons selon un mode de vie qui n'est pas celui qui n'est pas un mode de vie inventé par un être humain, mais c'est un mode de vie voulu par Allah, par le Seigneur, et que ces personnes, ils voient la vérité par notre intermédiaire. Wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله سمعنا الفوشان ومضي الفوشان ونبقى de façon on essaie d'être régulier on va continuer encore à avancer quelques versets. جزاكم الله خير.